Extra.
La chronique américaine.
We will make America great again.
Avec Valérie Beaudoin.
Madame Beaudoin est là et on va parler bien sûr de Donald Trump qui a utilisé pour la première fois son droit de veto.
Yesterday, Congress passed a dangerous resolution that if signed into law would put countless Americans in danger, very grave danger. Today, I am vetoing this resolution. Congress has the freedom to pass this resolution and I have the duty to veto it.
Donc, c'est en lien avec son mur. Bonjour.
Bonjour.
Donc, cette décision-là est plus ou moins surprenante, là, avouons-le quand même.
Non, alors ça, c'était pas la surprise de la semaine que Trump appose son droit de veto. Ce qui était particulièrement, je dirais, plutôt surprenant, c'est le nombre de républicains qui ont voté pour une résolution pour bloquer le financement de ce fameux mur-là par sa déclaration de cet état d'urgence, de cette urgence nationale. Le Sénat devait voter une résolution pour bloquer sa tentative d'utiliser ses pouvoirs. Et il y a 12 sénateurs républicains quand même qui se sont ralliés aux démocrates. Je pense que c'est ça plutôt qui était surprenant pour le président américain parce qu'au début, on parlait de 4 républicains qui auraient pu se ranger du côté des démocrates, mais il semble qu'il y en a plus que ça qui ont été frustrés du geste du président et qui se sont dit aussi qu'il n'était pas, je vais utiliser l'expression, pas parlable. Il était pas, on n'était pas capable de communiquer pour trouver des solutions ou trouver d'autres façons de faire. Et eux, ce qu'ils reprochaient au président, c'est de dire, écoutez, le Congrès a été élu par les Américains et on a voté pour un budget qui n'inclut pas le financement du mur, à part les quelques millions qu'on vous a donnés. Là, vous dérogez de ça et vous allez encore plus loin. Et pour ça, ben, on n'est pas d'accord. Alors, on vote pour une résolution pour bloquer l'urgence nationale.
Et le budget du mur qui, lui, tu sais, il y a des estimations qui avaient été faites. On avait parlé d'un 5 milliards au départ. On ne sait pas finalement, puis ça a augmenté encore.
Oui, tout à fait. Même certaines évaluations, dont des évaluations de Fox News, ils disaient autour de 20 milliards que ça pourrait coûter le mur. Alors là, on est loin du 5 milliards ou du 8 milliards là, qu'on demande.
Bon, parlons de celui que l'on qualifie de nouveau Obama. On en a parlé déjà ensemble parce que tu viens de la course au Texas. Beto O'Rourke.
Oui, voilà. Alors, Beto, qui est un homme d'origine irlandaise, mais au nom, qu'on pourrait voir un peu hispanophone, c'est lui, là, pour vous rappeler, qui était contre Ted Cruz dans la course au Sénat au Texas. Il avait fait parler beaucoup de lui. C'était l'espèce de star montante du Parti démocrate. Il était à 3 points seulement du sénateur républicain pour un État qui était très rouge à l'époque. Oui. C'était vraiment une exception. Bon, il est charismatique, il est très simple, il utilise brillamment les réseaux sociaux. On le voit souvent se filmer. On y a même filmé dans sa campagne, dans sa voiture pendant son lancement de campagne. Il conduisait. Il a mis sa caméra, conduisait seul. Il regardait son GPS de temps en temps. Il parlait à son auditoire sur Facebook Live. C'est quelqu'un vraiment, je dis que c'est dangereux aussi, là, mais c'est quelqu'un qui veut vraiment parler à son public comme monsieur, madame, tout le monde.
Il parlait-tu ou il faisait juste se faire filmer?
Non, il parlait. Il disait comment que sa journée s'était passée. C'était comme un peu un monologue qu'il faisait.
Là.
Voilà. Alors, un influenceur candidat à la présidence de 46 ans qui fait quand même peur, faut dire, à certains démocrates. Le problème, est-ce qu'il est progressiste? Est-ce qu'il est centriste? Est-ce qu'il est modéré? Il veut pas se prononcer sur énormément de questions, comme la couverture médicale pour tous, le Green New Deal, qui est cette espèce de révolution au nom de l'environnement. Il veut pas se prononcer, il veut pas se mouiller. Alors, il y a des très bons discours. On le dit c'est ça, l'espèce de nouveau Obama qui peut attirer les foules. Il monte sur le comptoir, il parle aux foules comme si c'était ses amis. Mais dans le concret, il va falloir qu'il se mouille et qu'il décide, est-ce que je suis à gauche ou au centre des démocrates? Parce qu'on le sait, il y en a qui sont très, très à gauche actuellement.
Mais on sait en plus qu'un démocrate du Sud, souvent, c'est plus républicain qu'un républicain du nord des États-Unis, là, que de l'État de New York, exemple.
Et il a déjà voté aussi des lois assez conservatrices lorsqu'il était représentant à la Chambre des représentants. Donc, il est pas pour le mur. Il est quand même progressiste à certains niveaux, mais dans des questions cruciales, il va falloir qu'il se mouille parce que sinon, vraiment, ses opposants vont le critiquer.
Mais est-ce qu'il y a des chances?
Est-ce qu'il y a des chances? Ça, c'est la grande question et on a peur, nous aussi, de se mouiller pour dire ça. C'est certain que face à un Bernie Sanders, un Joe Biden qui sont déjà dans la hausse sont dans le top des sondages, même si Joe Biden s'est pas encore lancé, lui aussi, on attend ça d'une journée à l'autre. Mais quand même, il y a l'effet star, il y a l'effet renouveau, il y a l'effet un peu, on cherche le sauveur chez les démocrates. Et pour vous dire qu'il fait peur, Kamala Harris et Elizabeth Warren, qui sont des candidates aussi à la présidence, dès qu'il a annoncé envoyer à tous leurs supporters un petit courriel en disant « on aurait besoin d'argent, aidez-nous à financer ». Et l'objet, c'était Beto O'Rourke. Alors oui, je crois qu'il fait peur à certains opposants.
On va aller assez succinctement parce que je veux qu'on parle, qu'on prenne le temps. Il nous reste à peu près 2 minutes. Bon, Donald Trump qui a parlé des nationalistes blancs qui sont pas une menace grandissante.
Oui.
Et ça passe très mal. Puis la preuve, c'est que tu regardes un peu la politique internationale, c'est indéniable, là. C'est un fait. Ça remonte partout, les suprémacistes blancs puis des politiques qui sont comme ça.
Oui, puis c'est pas la première fois qu'il parle un peu mal de ces suprémacistes blancs. On se rappelle à Charlottesville, quand il avait dit il y avait des problèmes des deux côtés, quand un suprémaciste blanc avait tué une manifestante là-bas. Il a dit, je pense pas que c'est un problème, je pense qu'il s'agit d'un petit groupe de personnes, même si Trump était louangé par le tireur, qui disait que c'était un symbole de l'identité blanche qui était renouvelée et d'un but commun. Alors vraiment, ça n'a pas très, très bien passé, le fait qu'ils disent que ce n'était pas une menace grandissante.
Bon, John McCain a beau être mort, mais ça n'empêche pas le président de l'attaquer.
Oh non, on se demande pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire ça. C'était sur Twitter hier. Ce qu'il a dit, c'est qu'il rapportait des propos de Kenneth Starr, qui était la personne qui enquêtait sur Bill Clinton pendant les scandales de sa présidence, et qu'il avait dit que certaines erreurs qu'avait fait John McCain, entre autres, c'est lui qui aurait eu entre les mains le dossier qui avait été remis à BuzzFeed sur des allégations de ce que Trump aurait fait dans certaines chambres d'hôtel en Russie, l'espèce d'information que les Russes auraient au-dessus de sa tête là, pour le manipuler. Et que John McCain, même s'il a toujours dit que c'était pas vrai, aurait eu ce dossier-là entre les mains. Alors, il a parlé de ça sur Twitter, mais il a aussi dit que John McCain, la plus grande tâche à son dossier, c'était d'avoir voté pour mettre fin à Obamacare. Il avait voté contre le président, contre sa ligne directrice. Et là, sa fille se dit, mais pourquoi tu mets autant de temps à parler de mon père? C'est samedi. Moi, j'aurais aimé savoir plus de samedi avec mon père. Peux-tu donc t'occuper de tes enfants? Et le laisser tranquille, finalement.
Il est mort, tu sais.
C'est ça. À quoi ça sert?
Merci beaucoup.
Merci.
Salut Valérie, bonne semaine. Valérie Beaudoin est chercheure associée à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Christian Page sera avec nous dans les prochaines minutes. Inquiétude pour certains commerçants de la rue Saint-Denis à Montréal qui ont peur de se faire imposer des meubles de patio uniques pour leur commerce partout, même s'ils en ont déjà.